Bonjour, c'est Axel Le Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air.
Nicolas Delabarrère, bonsoir. Vous êtes journaliste et France 5 diffuse dimanche soir à 21h05 votre documentaire qui est intitulé « France, nid d'espions », car la France est espionnée. Alors, d'ailleurs, on se dit si on est espionné, c'est que la France a des trésors qui intéressent à l'étranger, notamment les Chinois. Les Chinois, dites-vous dans votre documentaire, qui espionnent nos universités et qui espionnent Airbus. Oui, alors, on va regarder d'ailleurs une photo de l'avion, du premier avion de ligne chinois, qui s'appelle le Comac 919, et qui ressemble, c'est vrai, étrangement à l'A320 d'Airbus, qui est fabriqué à Toulouse. Et si ces deux avions se ressemblent, c'est, voilà, on les voit là. C'est pas forcément un hasard.
Oui, alors c'est ce qu'on suppose. Évidemment, il n'y aura jamais de preuves définitives et de communiqués d'Airbus parce que ces choses-là se règlent plutôt en général sous le tapis, à l'abri des regards. Mais effectivement, il y a une ressemblance étrange. Et en fait, le C-919 donc, qu'on voit ici vient d'obtenir la certification internationale, donc peut voler, y compris hors de Chine. Et pour obtenir ça, c'est des processus très longs. Et les Chinois, qui ont leur constructeur depuis une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, voulaient accélérer absolument. Et effectivement, pour les Chinois, c'est assumé, tous les moyens sont bons.
Plutôt que de développer leur propre avion, ils vont se servir en prenant ce qu'ils n'ont pas chez Airbus.
Alors écoutez, je pourrais pas dire que c'est confirmé à 100%, mais les soupçons sont quand même très forts. Il y a eu beaucoup d'attaques informatiques, en effet, sur les secrets d'Airbus.
Alors, la France accueille des étudiants chinois, c'est notamment le cas dans le Nord-Est, je crois que c'est à Metz ou à Nancy. Et il y a une étudiante chinoise qui est pris la main dans le sac, en train de télécharger le week-end avec des logs, avec les identifiants des responsables de l'université. On la prend la main dans le sac et on ne dit rien, on la renvoie.
Oui, c'est ça.
Pourquoi on ne sévit pas? On a un peu peur des Chinois, vous nous dites.
Il y a sans doute de ça. On n'ose jamais tellement hausser le ton parce qu'il y a des relations qu'on veut préserver. Ce n'est pas comme aujourd'hui avec la Russie où les choses sont à peu près claires, étant donné qu'il y a une guerre chaude en Ukraine. Avec la Chine, c'est plus compliqué. Et puis, la Chine a un pouvoir énorme en termes d'investissement dans les universités, dans des laboratoires, propose des fonds assez importants. Donc, effectivement, c'est toujours compliqué de hausser le ton.
Et là, en plus, mais contrairement aux Américains, si on est pris en train d'espionner aux États-Unis, il y a des sanctions. En France, on dit, c'est pas bien, vous reprenez l'avion, vous rentrez à Pékin, quoi. Ça s'arrête là.
Il y a un petit peu de ça. Il y a Bernard Barbier, l'ancien directeur technique de la DGSE, qui dit ça alors c'est plutôt dans le chapitre consacré à Airbus, qui dit les Américains ont les moyens de s'opposer frontalement à la Chine et de désigner le coupable quand le coupable est pris la main dans le sac. En France, on estime peut-être qu'on n'a pas vraiment ces moyens.
Alors, vous avez parlé à l'instant des Russes, et c'est vrai que quand on parle d'espionnage, on pense aux Russes. Alors là, on retourne dans l'imaginaire de l'espionnage, parce que les Russes font de l'espionnage à l'ancienne, j'allais dire, avec du renseignement humain. Ça veut dire quoi? On envoie de faux espions, qui sont officiellement des diplomates, et qui essayent d'entrer en contact avec des personnes qui ont des infos. Alors, il y a notamment cet extrait où c'est un soi-disant diplomate qui cherche à entrer en contact avec un journaliste spécialisé dans la défense. Et très vite, il y a des incohérences qui font que le journaliste se dit « Mais est-il vraiment diplomate ?» On regarde cet extrait.
Lors de l'un de nos premiers rendez-vous, Sergueï Solomassov me dit « Ah, mais moi aussi, je fume le cigare, j'adore ça. » Et donc, à l'un des rendez-vous, je ramène deux cigares. Et en fait, il ne sait pas fumer le cigare. Quand on fume le cigare, on n'avale pas la fumée. Et je me rends compte du coup au bout d'un moment qu'il est blanc comme un linge parce que lui, qui est fumeur, avale la fumée d'un énorme cubain depuis une bonne demi-heure. Et en fait, il a deux doigts de tomber dans les vapes. Mais il a mis en place tout ce truc-là pour dire, regarde, on a des choses en commun.
Voilà, donc les espions cherchent à entrer en contact, au début à sympathiser. Comment ça se passe ensuite pour obtenir des informations de la part de ce journaliste, des informations sensibles ou toute autre personnalité?
Alors c'est assez graduel. En général, ce qu'expliquent les spécialistes du contre-espionnage, c'est qu'on ne voit pas forcément l'espion venir avec ses gros sabots. En l'occurrence, c'est vrai que celui qui a approché Romain Mielkarek n'était pas très discret, c'était un diplomate à l'ambassade russe qui en fait était un agent du renseignement militaire russe, et la DGSI qui le suivait, qui l'avait bien identifié, a très vite prévenu Romain Mielkarek en disant attention, cet homme-là n'est pas simplement un diplomate, il ne cherche pas simplement à avoir un petit réseau dans Paris et à découvrir la ville. Et effectivement, ce journaliste l'a vu manœuvrer au fil des ans, essayer de poser des questions déjà d'emblée assez précises sur sa vie privée pour identifier ses faiblesses. faiblesses et éventuellement avoir des leviers pour le forcer ou l'inciter à collaborer. Ça peut être, il peut identifier qu'il a besoin d'argent, donc proposer de l'argent. Il peut identifier qu'il a un ego qui a envie d'être flatté, donc il va aller dans ce sens-là. Il y a toute une panoplie de techniques de manipulation qui sont en fait les mêmes que depuis l'époque du KGB.
Alors, ils essayent d'avoir des renseignements auprès d'ingénieurs ou d'hommes politiques. Alors, vous expliquez qu'au début, on ne se méfie pas parce qu'ils demandent des choses très simples.
Oui.
Qu'on peut trouver sur Internet. Alors, on dit, oui. Oh, bah, si c'est ça...
C'est la technique du pied dans la porte.
Voilà.
C'est en fait habituer quelqu'un à rendre des petits services complètement anodins. Au départ, on demande un article que vous trouvez en deux clics sur Google. Enfin, c'est des choses simples. Et au fur et à mesure, en fait, on va demander des choses de plus en plus... sensible, et donc à la fin
on est piégé en fait,
et voilà, et il y a un moment où quand même on se rend compte de qui on a en face. Enfin, c'est ce que dit l'ancien sous-directeur de la DST qu'on a interviewé. Il y a un moment, forcément, on se rend compte qu'on a en face de soi.
Alors, ces espions russes cherchent aussi à entrer en contact avec des hommes politiques. Vous avez recueilli le témoignage d'un proche collaborateur de Jean-Luc Mélenchon qui a été approché par ce même espion russe. Il ne s'est pas méfié au début, le collaborateur de Jean-Luc Mélenchon. Il vous raconte la scène, on l'écoute.
Il s'engage la conversation, on parle des élections, puis à un moment donné, arrive le sujet de « vous êtes formidable, Jean-Luc Mélenchon est formidable, mais il serait extraordinaire qu'il soit président de la République française, peut-être qu'on peut vous aider ». Mais tout ça vient sur le ton badin, il n'y a rien d'extrêmement formel. On pourrait par exemple vous aider en vous donnant 500 000 euros qui vous permettraient de mener plus efficacement la campagne. Et là, c'est l'attitude que vous avez détermine la suite. Donc j'étais très ferme et clair immédiatement, non.
Les Russes essayent d'acheter des candidats à l'élection présidentielle.
La scène qui est décrite se passe en 2016, donc effectivement, on est vraiment en pleine période des opérations d'influence russe, sans forcément beaucoup de répartie du côté occidental. Enfin, on se souvient que c'est la même période que les élections américaines avec Trump, les fermes à trolls russes qui ont essayé de déstabiliser Hillary Clinton au maximum. On est vraiment dans ce contexte-là, et effectivement, à ce moment-là,
une fois que vous avez reçu
de l'argent,
du Kremlin, vous êtes tenu par le Kremlin, parce que sinon, il le révèle.
Georges Kuzmanovitch, qu'on voit ici, n'est pas stupide. Il se rend compte immédiatement du piège. Et même si, à ce moment-là, la France insoumise n'est pas encore le parti qu'on connaît maintenant, ils ont des problèmes d'argent. Ils sont en train de commencer leur campagne électorale. On est en 2016, et c'est un parti qui a besoin d'argent. Donc, c'est vrai que l'offre est alléchante, et les Russes ont parfaitement identifié ça. Et Georges Kuzmanovitch n'est pas né de la dernière pluie, et il refuse aussi sec, oui.
Alors, il y a aussi, vous parliez tout à l'heure, comme à l'époque du KGB, il y avait le coup du parapluie, ça continue. L'Azerbaïdjan, par exemple, télécommande des assassinats depuis l'Azerbaïdjan contre des opposants qui vivent en toute sécurité en France, à Nantes. Vous le racontez dans le film.
Oui, alors si vous le dites comme ça, je pense que vous aurez très, très rapidement des protestations de l'ambassade d'Azerbaïdjan parce que l'enquête est en cours. L'enquête est en cours, voilà. Il y a un certain nombre d'individus qui sont en prison à l'heure actuelle à cause de des tentatives d'assassinat subies par cet opposant azéri. Il semble qu'on est plutôt à l'heure actuelle sur une piste mafieuse, mais enfin, ces mafieux ne sont pas venus par hasard. Et l'enquête, pour l'instant, se heurte au bout d'un moment à certaines frontières.
Sergueï Skripal, la tentative d'assassinat au Novichok par les Russes contre un opposant qui était installé en Angleterre, pour le coup,
on se
souvient. Mm-hmm. Vous révélez qu'en fait, elle a été téléguidée depuis la... Enfin, les agents russes qui sont à l'auteur de cette tentative d'assassinat ont fomenté leur opération depuis la Haute-Savoie.
Oui, ça nous a vraiment interpellés quand on a vu ça. Alors là, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vraiment Jacques Folleroux du Monde qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui a fait ces révélations. Ça lui a pris un certain temps pour arriver à avoir des noms, avoir des points de chute, etc. Et donc, on est reparti de son travail. On est allé le voir. Il nous a gentiment répondu.
Pourquoi la Haute-Savoie ?
Et pourquoi la Haute-Savoie ? Parce que c'est une position centrale en Europe, que vous pouvez arriver à l'aéroport de Genève, passer très rapidement côté français. Vous pouvez vous projeter à peu près partout. Et quand on voit le palmarès de cette unité 2955, qui est donc soupçonnée et même ça paraît assez clair, qui a tenté d'empoisonner Sergueï Skripal.
En partant en commando, donc depuis voilà. Genève, depuis la Haute-Savoie, direction...
Exactement, et en fait, on s'est rendu compte que pendant des années, ils ont agi partout en Europe.
France, Nid d'espions, c'est demain soir, non, dimanche soir, à 21h05 sur France 5. Merci beaucoup, Nicolas Delabarrère. Vous restez sur France 5 à suivre C'est dans l'air qui revient sur les absences et les trous de mémoire de Joe Biden qui a appelé Emmanuel Macron François Mitterrand. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir Joe Biden, des trous de mémoire qui inquiètent.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.